Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mes trois livres que j'ai lus récemment, enfin au cours de ces derniers mois et que j'ai adoré. Je crois que je me suis vraiment intéressée à la notion de lâcher prise, d'acceptation, quand j'ai découvert l'ACT, la thérapie de l'ACT. Donc en anglais, c'est Acceptance and Commitment Therapy. Je m'y suis intéressée d'abord pour l'alimentation, et puis finalement il y a plein de choses qui me sont venues en tête, et ensuite j'ai voulu creuser et j'ai découvert plein de livres, dont les trois dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi voilà les trois qui m'ont le plus parlé, et je vais peut-être faire des vidéos plus tard précisément sur un livre en particulier parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Mais aujourd'hui, mon but c'était plutôt de vous faire découvrir trois livres, de vous donner envie de lire trois livres. Et pour ça, j'ai choisi dans ces trois livres de prendre trois citations qui sont très parlantes pour moi et qui j'espère sont très parlantes pour vous. Donc si ça peut vous donner envie de lire ces livres ou juste de réfléchir à ces trois citations, ben c'est top. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir à quel point les informations se recoupent et se ressemblent finalement. Et il y a une fille en commentaire qui me disait qu'en philosophie, par exemple, dans le stoïcisme, il y avait beaucoup de ces notions qui étaient abordées et je m'y étais justement intéressée aussi. Aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça, mais je voulais juste dire que vraiment, je trouve ça tellement intéressant de voir plusieurs auteurs qui viennent parfois de milieux complètement différents retrouver les mêmes idées, les mêmes concepts, et dont chacun parle avec ses propres mots et sa propre histoire, ses propres connaissances. Et voilà, je trouve ça vraiment puissant parce que je pense que quand on lit un premier livre sur le sujet, il y a plein de choses voilà, qui sont intéressantes, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on capte pas encore. Et lire un autre livre sur le sujet, on se dit, ah putain, mais en fait, attends, lui, il avait dit ça. En fait, on fait plein de recoupements et ça renforce vraiment toutes ces notions. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant de relire plusieurs fois les livres parce que finalement, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues à la première lecture. Donc, c'est parti, aujourd'hui, je vais vous parler de trois livres, deux en français et un en anglais, même si je pense qu'il existe en français aussi. Mais je l'ai lu en anglais. Alors je vais pas pouvoir vous les présenter en physique parce qu'ils sont sur mon Kindle, mais c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vous partager les passages du livre que moi j'ai trouvé super intéressant, sachant qu'il y en a un million en vérité, j'en ai surligné plein. Ça a été très dur de trouver que trois citations à chaque fois, mais sinon je me suis dit ça va durer des heures, ça n'a pas de sens. Et peut-être que voilà, je ferai une vidéo spécifique pour chaque livre plus tard, mais aujourd'hui c'était pas le but de cette vidéo. Donc évidemment, il y a plein d'autres citations qui ne vont pas être dans cette vidéo, mais qui sont tout aussi importantes pour moi, mais voilà, il fallait choisir. Le premier livre, c'est Le processus de la présence. Je crois que je l'avais vu dans une vidéo YouTube américaine, je sais plus laquelle. Je pense que je m'y serais pas forcément intéressée si on me l'avait pas conseillé quelque part. Et je pense que voilà, c'est un livre assez particulier au premier abord. J'avoue qu'au début, je me suis dit, ça a l'air chelou. Mais j'ai voulu continuer parce que justement, il m'avait été conseillé par quelqu'un que j'aimais bien et dont voilà, j'aimais beaucoup le travail. Et typiquement, je ne sais pas si ce livre, sans mes autres lectures avant, je ne sais pas si j'aurais accroché. Mais là, en fait, il faisait remonter tellement de choses en moi, il faisait le lien avec tellement de connaissances que j'avais déjà avant que je me suis dit, waouh, en fait, ça a l'air un peu perché, mais en même temps, ça fait complètement sens avec toutes les autres lectures qui sont peut-être plus formelles et écrites par voilà, des personnes qualifiées, des psychothérapeutes, des psychiatres, tout ça. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé que il allait voilà, très en profondeur sur le chemin de la connaissance de soi et du lâcher prise. Donc voilà, je vais pas revenir sur le concept du livre et tout ça parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais directement passer aux trois citations que j'ai choisies pour vous aujourd'hui. La première, nous passons nos moments éveillés à réfléchir sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé et à planifier les ajustements que nous estimons nécessaires afin d'atteindre la paix et l'épanouissement recherchés. Du fait que ces ajustements sont orientés vers un lendemain meilleur, nous avons oublié comment vivre un aujourd'hui qui ait du sens. En conséquence, l'expérience que nous vivons dans l'instant est simplement considérée comme un moyen que justifie la fin. En fait, ce passage, il m'a un peu fait penser à la vidéo que j'avais fait sur Tu n'es pas ton futur toi. je parle vraiment de ce concept-là dans cette vidéo, donc je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Cette citation, je la trouve tellement pertinente dans le sens où on se rend compte que dans tous les aspects de notre vie, on vit, on est enfermé dans le futur. On espère énormément de choses qui vont se passer dans le futur, et pour ça, il faut que au moment présent, on fasse ces choses pour atteindre ce futur. Et c'est comme ça qu'on vit notre vie au quotidien. Sauf que finalement, on se rend compte que si on passe toujours notre moment présent pour atteindre un certain futur, ben le moment présent n'est plus vraiment un moment présent. Il est, comme il le dit, considéré comme un moyen que justifie la fin qui est le futur. Donc j'ai trouvé ça très intéressant pour prendre du recul sur en fait à quel moment je profite vraiment des choses, à quel moment je profite vraiment de ma vie, de qui je suis. Le deuxième passage. Nous avons vu que le but de ce voyage n'est pas de se sentir bien, mais plutôt de ressentir ce qui se déroule à l'intérieur de nous à chaque instant. En d'autres mots, il ne s'agit pas de se sentir mieux, il s'agit de mieux savoir sentir. Ce passage, il est tellement important. Parce qu'on se rend compte que toutes ces choses qu'on met en place pour se développer personnellement, souvent ça va être pour atteindre un objectif de se sentir bien. Sauf que finalement, on se rend compte que bien souvent, ce sentiment de se sentir bien, de se sentir soulagé, rassuré, ça s'apparente souvent à de la fuite, à une volonté d'anesthésier ce qu'on ressent vraiment. Et finalement, on passe sa vie à éviter l'inconfort pour se sentir bien. Et sur le moment, ça paraît forcément pertinent. Sauf que quand on passe sa vie à faire ça, finalement, on est un peu perdu et on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on ressent réellement. Et c'est normal parce qu'on a passé notre vie à ne pas vouloir ressentir ce qu'on ressentait. Et je sais plus dans quel autre livre, et je crois que c'était Moussa Nabati, un psychiatre, qui disait que finalement le but c'était pas de se sentir bien, mais de se sentir vivant. Et ici c'est un peu la même idée. Et je la trouve pertinente et c'est important de s'en rappeler quand on met en place des nouvelles expériences, quand on est dans une quête de connaissance de soi-même. Parce que finalement, on se rend compte qu'en évitant nos sensations, nos sentiments désagréables, inconfortables, c'est agréable sur le moment, mais ça ne nous aide pas à nous sentir vivants, entiers, assez sur le long terme. Et attention, quand je dis ça, je suis pas du tout dans le jugement ou la culpabilité. De toute façon, tous les passages ici, c'est vraiment dans une optique d'ouvrir, d'aiguiser votre curiosité. Et pas du tout de dire « Ah bah non, ça c'est mal, ça c'est bien, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. » Pas du tout. C'est vraiment des pistes de réflexion pour vous dire « Tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé les choses comme ça, et je serais curieuse de voir comment je fais au quotidien et est-ce que ça me convient ou pas ?» sur le long terme. Et vraiment cette idée de ressentir, ce qui se déroule à l'intérieur de nous, plutôt que se sentir bien, elle est vraiment clé dans l'alimentation émotionnelle. Et je sais que ça me fait aussi penser à l'alimentation intuitive, où le chemin peut être très inconfortable. Et j'ai souvent lu d'ailleurs des critiques à ce sujet en se disant « Mais en fait, si c'est inconfortable comme ça, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est forcément bon pour la personne ?» En fait, si le chemin est inconfortable, c'est simplement qu'il encourage à regarder à l'intérieur de soi, regarder ce qui se passe, s'autoriser à être, à vivre tel qu'on le vit aujourd'hui et ne pas aller s'enfermer dans de la culpabilité, dans de l'évitement, dans du contrôle, dans des mécanismes en fait pour ne pas voir la douleur ou la réalité de ce qui se passe en nous en ce moment. Bon, je vais pas parler comme ça pendant toutes les citations parce que sinon on va jamais y arriver. La troisième citation. Notre expérience est nécessaire exactement de la manière dont elle se déroule, peu importe comme elle nous apparaît. Si elle se produit, c'est qu'elle est nécessaire. Notre tâche est de répondre à ce qui nous arrive comme étant quelque chose de valable au lieu d'y réagir. Par une réponse inconditionnelle, nous intégrons. Par une réaction conditionnelle, nous désintégrons. Ici, il y a vraiment cette idée d'acceptation inconditionnelle, vraiment de ce qui est. Cette idée de si ça se passe comme ça, c'est que ça a besoin de se passer comme ça. Et ça, j'ai fait un post Instagram récemment sur le sujet. Il est où ? Ah oui, j'avais fait un post Instagram qui s'appelle « J'aurais pu mieux faire » en écrivant en dessous « Vraiment ?» Parce que cette idée de « j'aurais pu mieux faire », on se la dit très régulièrement, on regrette comme on a agi. Mais en réalité, si on a agi de cette façon, c'est parce que c'était la manière dont on était capable de réagir à ce moment-là. Et ça veut pas dire qu'on ne sera jamais capable de réagir autrement, ça veut juste dire que si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait des informations intéressantes pour nous et qu'on avait besoin de le vivre comme ça. Et cette acceptation inconditionnelle, qui n'est pas de la résignation, hein, je sais plus si j'ai mis un extrait sur ce sujet, mais bon, ils en parlent aussi. Cette acceptation inconditionnelle, c'est vraiment celle qui nous permet d'être dans la curiosité et non pas dans le jugement. Juste de la curiosité de qui on est vraiment aujourd'hui parce que c'est la seule personne qui existe finalement, la personne qu'on est aujourd'hui, maintenant, à cette seconde-là. Et je trouve que cette citation, elle est intéressante parce que souvent, on rentre dans une analyse très poussée de « mais pourquoi on a fait ça? Est-ce qu'on a fait ça ?» Et en fait, est-ce que déjà, la première étape, ce serait pas de juste accepter ce qui s'est passé et se dire « ok, ce que j'ai vécu, la manière dont je l'ai vécu, la manière dont j'ai réagi, c'est exactement comme ça que ça devait se passer. » Je vous encourage à penser à cette citation dans les prochains jours. Vous me direz ce qui ressort, mais en général, c'est très intéressant. C'est tout pour ce livre, on passe au deuxième livre qui est Letting Go. Ce livre, il a été écrit par un psychiatre. Je pense que c'est celui qui a été le plus difficile à lire, peut-être parce qu'il est en anglais, mais il est vraiment très très intéressant et aborde vraiment en profondeur cette notion de lâcher prise qui n'est pas très facile à aborder parce que aujourd'hui, cette notion de lâcher prise, d'acceptation, elle peut vite être associée à de la résignation, de l'abandon, et du coup, on comprend pas vraiment qu'est-ce qui est intéressant là-dedans et qu'est-ce que ça nous apporte. Parce qu'encore une fois, on a toujours envie de penser à mais oh, c'est quoi les résultats que j'attends de tout ça. Donc là, il explique vraiment qu'est-ce que c'est et comment on gère les choses dans notre quotidien, quelles sont les conséquences. Et je sais que en fait, moi, ce qui est puissant quand je lis ce genre de choses, c'est qu'en fait, au quotidien, on fait les choses naturellement en se disant, ben, en fait, c'est moi qui fonctionne comme ça. Et en fait, quand le gars, il t'explique exactement ce que t'es en train de vivre, mais par sa théorie, tu te dis, ah, mais en fait, il n'y a pas que moi qui réagis comme ça. Et tu commences à voir le lien entre ta manière de réagir, les conséquences que ça a. Et en fait, ça permet de remettre les choses un peu à leur place. Dans le sens où lâcher prise, ça sera presque jamais la manière de réagir vers laquelle on va aller naturellement. Au contraire, on va penser que ça a plus de sens d'agir au lieu de lâcher prise. C'est ce qui nous paraît être le plus pertinent. Et donc là, ce livre permet vraiment de prendre du recul sur ça. Donc je vous encourage vraiment à lire, c'est très intéressant. C'est parti pour les trois citations. Nous avons trois manières de gérer nos émotions. Les supprimer, les exprimer et y échapper. Et bon là je ne l'ai pas noté, mais en fait il explique que quand on ressent une émotion, on ne va pratiquement jamais juste vivre avec cette émotion, mais on va toujours être en réaction, donc en les supprimant. Et ça typiquement, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans le développement personnel, quand on nous propose justement de changer nos émotions, ben ce qu'on fait c'est qu'on supprime nos émotions. On se dit, bah non, c'est pas comme ça que je voudrais réagir. Donc, bah, c'est comme si on niait les émotions qu'on ressentait en se disant, non, là, j'ai de la peur. J'ai peur du regard des autres. Je ressens cette peur, mais je n'ai pas envie de ressentir cette peur. Donc, je vais supprimer cette peur et je vais me pousser à ressentir autrement. Donc, je vais changer mes pensées pour changer cette émotion de peur. Et typiquement, donc, c'est, bah, on supprime cette émotion qu'on ressent. La deuxième manière, c'est en exprimant nos émotions. Donc, typiquement, je sais pas, quand on est en colère, on va l'exprimer en criant. Et ensuite, en fuyant nos émotions. Donc là, par exemple, en allant boire des verres, on met un peu de côté ses émotions en se disant « on verra ça plus tard ». Là, souvent, il y a cette idée d'anesthésier ses émotions, peu importe le moyen utilisé. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas du tout de juger ses manières de réagir. L'idée, c'est simplement de dire « mais finalement, ces émotions... » C'est de cette manière-là qu'on les gère, mais ces émotions-là, elles sont toujours là. Et l'auteur ici nous invite à essayer de vivre avec ces émotions, sans rien faire de particulier, mais à pleinement les vivre. La deuxième citation, « La source réelle du stress est en fait interne, elle n'est pas externe comme les gens voudraient le croire. La disposition à réagir avec peur, par exemple, dépend de la quantité de peur présente à l'intérieur qui sera déclenchée par un stimulus extérieur. » Et c'est un petit peu ce que j'expliquais dans une de mes dernières vidéos sur cet état émotionnel de base qu'on a, dans lequel on est, et qui va déclencher certaines réactions. Et en fait, au quotidien, on a l'impression que c'est l'émotion qu'on a ressentie à un moment T qui est problématique et qu'on va devoir changer. Alors qu'en réalité, cette émotion qui est triggered by, par un stimulus externe, elle n'est en fait qu'une conséquence de notre état émotionnel par défaut. Et typiquement, là, il parle de la peur. Ça dépend de la quantité de peur qui est présent à l'intérieur de nous. Donc si notre état émotionnel de base, c'est la peur, ben, en fait, il va y avoir beaucoup plus de chances pour que n'importe quel stimulus externe nous trigger et du coup nous fasse ressentir de la peur. Là où, quand quelqu'un est dans un état émotionnel d'amour de soi, ben, il y a des événements qui vont lui faire peur, mais pas du tout de manière aussi fréquente et de manière aussi chronique. Donc je trouve ça intéressant de prendre du recul et de se rendre compte que finalement, est-ce que le problème c'est vraiment notre manière de réagir dans notre quotidien, ou est-ce que ben, en fait, c'est simplement une conséquence de notre état émotionnel de base, et du coup est-ce que on avance vraiment quand on travaille sur nos émotions au quotidien, qu'on ressent au quotidien et qu'on essaye de gérer, donc souvent de supprimer, anesthésier ou exprimer. La troisième citation, c'est « Lâcher prise implique de prendre conscience de l'émotion, la laisser arriver, rester avec elle et la laisser faire son chemin sans vouloir que ce soit différent, sans vouloir en faire quelque chose. » Lâcher prise veut simplement dire laisser l'émotion exister et mettre son attention sur libérer l'énergie derrière cette émotion. Cette phrase, elle est vraiment très très importante parce que on entend souvent parler de lâcher prise, d'acceptation, mais c'est très très souvent dans un but de changer finalement la manière dont on réagit, dans un but de changer nos réactions pour réagir d'une meilleure manière, pour atteindre souvent certains objectifs. Alors que là, il explique clairement qu'en fait le lâcher prise, c'est laisser l'émotion exister. Donc souvent ça c'est ce qu'on vous dit, hein, quand on vous parle d'acceptation, on vous dit c'est important d'accepter les choses, de laisser l'émotion exister, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux changer. Mais en fait ça veut dire qu'on a toujours, on s'attend à se comporter d'une manière différente ensuite. Alors que là, c'est pas du tout ça, c'est vraiment la laisser arriver, rester avec elle et la laisser faire son chemin sans vouloir que ce soit différent, sans vouloir en faire quelque chose. Cette vraie acceptation, ce vrai lâcher prise implique que, en fait, vous ne savez pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Vous ne savez pas. Votre seul objectif ici, c'est de vivre avec l'émotion que vous ressentez et juste regarder avec curiosité, sans jugement, qu'est-ce qui se passe. C'est fini pour ce livre Letting Go. On passe au troisième et dernier livre, The Power of Now, le pouvoir du moment présent. Ce livre, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. On l'a lu en fait ensemble avec mon mari et du coup ça nous a valu beaucoup d'heures de discussion. C'était vraiment très très intéressant. Et là, quand j'ai rechoisi des passages, j'étais encore en train de lui partager plein de passages. J'ai noté, avant de sélectionner les trois que je vais vous donner ici, j'en ai sélectionné un milliard. La sélection a été rude et ça nous a encore émerveillés, je dirais. En fait, je trouve que l'auteur a vraiment des punchlines de ouf. Et c'est vraiment super pertinent. Donc c'est parti, la première, elle est un peu longue. Aux yeux de l'ego, le moment présent n'existe quasiment pas, car seul le passé et le futur lui importent. Ce renversement total de la vérité reflète bien à quel point le mental est dénaturé quand il fonctionne sur le mode ego. Sa préoccupation est de toujours maintenir le passé en vie, car sans lui, qui seriez-vous ? Il se projette constamment dans le futur pour assurer sa survie et pour y trouver une forme quelconque de relâchement et de satisfaction. Il se dit « Un jour, quand ceci ou cela se produira, je serai bien, heureux, en paix. » Même quand l'ego semble se préoccuper du présent, ce n'est pas le présent qu'il voit. Il le perçoit de façon totalement déformée car il le regarde avec les yeux du passé, ou bien il le réduit à un moyen pour arriver à une fin qui n'existe jamais que dans le futur projeté par lui. J'adore ce passage, il fait vraiment référence à la même chose que ce dont je parlais au tout début de cette vidéo dans le livre Le processus du moment présent. Et vraiment, je trouve que cette idée d'utiliser le présent comme un moyen pour arriver à une fin, mais se dire, mais en fait, j'utilise mon présent pour arriver quelque part, mais finalement, ce quelque part, il sera toujours dans le futur, puisque quand ce quelque part arrivera, ça sera mon moment présent, et en fait, je serai toujours dans cette dynamique-là d'utiliser mon moment présent pour atteindre un certain futur. Et du coup, de réussir à être un peu plus honnête envers soi-même. Mais vraiment, je trouve ça vraiment riche comme réflexion, parce que ça nous encourage vraiment à nous questionner sur mais quelle valeur je donne à ce que je suis en train de vivre là en ce moment. Parce que théoriquement, on est tous d'accord pour dire qu'il faut mieux vivre dans le présent que dans le futur ou dans des espoirs cachés. Mais je trouve que ce livre nous emmène vraiment à réfléchir sur... vraiment, quelle valeur tu donnes à ce moment-là qui est en train de se passer. Et ça nous emmène d'ailleurs à la deuxième citation que j'ai adorée. Ramenez votre vie au moment présent. Vos conditions de vie sont peut-être très problématiques, ce qui est le cas de la plupart des gens, mais essayez de voir si vous avez un problème en ce moment même. Pas demain ni dans 10 minutes, mais maintenant. Avez-vous un problème maintenant ? Et ça, je me souviens que cette partie-là, c'est mon mari qui l'a lu tout seul, et il m'a posé la question. Il m'a pas dit que ça venait de ce livre-là ou quoi que ce soit, il m'a juste posé la question « Comment tu te sens là, maintenant ?» Mais là, maintenant, à 10h12. Pas là, dans ta situation, dans ta journée. Là, maintenant, comment tu te sens ? Et je vous encourage à faire l'exercice et à me dire en commentaire quelle réponse vous avez à cette question de « Là, maintenant, à la minute, à la seconde où vous écoutez mes mots, comment est-ce que vous vous sentez ?» Et la dernière citation que j'ai choisie parce que c'est un message que je reçois beaucoup beaucoup, que moi-même j'ai ressenti énormément avant de commencer l'alimentation intuitive, donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous le partager. Votre mental vous dit que vous ne pouvez pas y arriver à partir de là où vous êtes, que quelque chose doit nécessairement se passer, sinon il vous faudra devenir ceci ou cela avant d'être libre et comblé. Que vous avez besoin de temps et de trouver, sélectionner, faire, accomplir, acquérir, devenir ou comprendre quelque chose avant de pouvoir être libre ou complet. Pour vous, le temps est l'instrument du salut, alors qu'en vérité, il en est le plus grand obstacle. Cette peur de ne pas réussir à faire quelque chose parce que on ne se sent pas complet, on ne se fait pas confiance aujourd'hui, encore une fois parce qu'on se définit en fonction de nos expériences passées, qu'on a très peur du futur et donc on ne veut pas rater. Mais en fait, on se dit, non, mais en fait, il faut que je fasse telle chose, il faut que j'arrive à cet endroit pour pouvoir y arriver. En fait, bien souvent, on ne sait même pas trop qu'est-ce qu'on attend. On se dit juste, non, en fait, dans l'état actuel, je ne me fais pas confiance. Sauf qu'en réalité, il n'y a que aujourd'hui, dans ce moment-là, maintenant, qu'il peut se passer des choses. Et encore une fois, je pense que c'est important de se rappeler qu'ici, l'idée, c'est pas du tout de juger, c'est vraiment créer des pistes de réflexion, dans le sens où là, on pourrait se dire, ah bah d'accord, en fait, là, il faut pas que j'attende, il faut que je fasse tout de suite, le temps, c'est mon ennemi, donc si j'attends, c'est mal. Non, pas du tout, en fait. Là, l'auteur, il veut vraiment expliquer comment se passent les choses, mais finalement, il dit aussi que ce qui se passe doit se passer. Simplement, parfois, on a l'impression que ça sera mieux plus tard, et qu'on saura mieux faire les choses plus tard, alors qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de plus de preuves, de plus d'expériences pour vous connecter davantage à vous-même et pour vivre dans le moment présent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces livres-là, enfin, c'est logique parce qu'ils parlent tous du moment présent, mais du coup, dans tous ces livres-là, ils parlent beaucoup de cette notion du temps et à quel point on s'accroche à cette notion du temps, le passé, le futur. Et finalement, dans cette notion du temps, le moment présent est très peu considéré. Et j'avoue que quand on entend ça pour la première fois, on a du mal à comprendre comment on pourrait considérer les choses autrement qu'en fonction du temps. Mais justement, c'est tout l'objectif de ces livres. C'est vraiment un travail qui est très enrichissant et avec lequel on apprend énormément sur soi-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vois que j'ai enregistré une heure, donc j'espère qu'au montage, ça ne fera pas une heure. Je ne pense pas parce que il y a des petits moments où j'ai bugué. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi si c'est des livres que vous avez déjà lus, est-ce qu'ils vous avaient apporté ? Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao !